Depuis toujours, la France est une terre d'accueil.
La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme.
On a grosso modo un flux de population qui fait qu'on doit avoir en Ile-de-France, en fonction des années bien sûr de l'entre-deux-guerres, entre 50 000 et 100 000 nord-africains et orientaux à peu près dans Paris. Domine largement les Kabyles, l'Algérie. D'ailleurs, on peut même beaucoup plus l'appeler un Paris Kabyle dans son regard qu'un Paris arabe, d'une certaine manière. Le flux de population, quand même, est assez rapide. C'est-à-dire que la plupart de ces travailleurs qui s'installent viennent 2-3 ans dans Paris.
C'est des hommes célibataires, enfin des hommes seuls.
Essentiellement, il y a moins de 1% de femmes. La grande différence, d'ailleurs, avec l'immigration chinoise ou indo-chinoise, c'est essentiellement une immigration masculine de travailleurs.
Des bras qui sont pas faits pour s'installer ici.
Non, et alors, bien sûr, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas que des travailleurs pour les usines. Bien sûr, certains, il y a l'image emblématique qu'on connaît tous, Renault, les usines automobiles. Mais vous avez des gens qui travaillent dans tous les domaines de l'industrie, mais évidemment dans le petit commerce, par exemple. Déjà, il y a une cinquantaine de bistrots arabes ou de restaurants arabes dans Paris. Il y a aussi plein de petits commerces. C'est-à-dire, ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a des colporteurs maghrébins dans Paris, qui est un vieux métier parisien, des petits vendeurs de rue par exemple. Vous avez aussi comme ça un certain nombre de maillages dans la ville, d'intellectuels aussi qui sont présents, aussi bien d'ailleurs syriens, libanais, qu'algériens, marocains, tunisiens. Ce que je veux dire, c'est que Paris est vraiment une capitale du monde arabe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on envoie les élites du monde arabe étudier à Paris, parce que le voyage initiatique de Paris, les études à Paris, et même, je dirais, le bain qu'on rencontre à Paris est un bain de mélange et de rencontres qu'on ne peut pas trouver ailleurs. L'ensemble de l'élite algérienne de l'époque, qu'il soit d'ailleurs d'origine plutôt nationaliste, plutôt socialisante, voire même monarchiste, voire tout simplement au niveau des oulémas, vous les croisez tous dans Paris. Vous avez également dans des ligues d'extrême droite des militants de chinois maghrébins. L'histoire, par exemple, d'Abraham El-Mahdi qui terminera sous drapeau allemand, mais également proche de la milice, qui sera numéro 3 du PPF de Doriot, ce qui n'est pas rien. En février 34, dans les grandes manifestations des ligues dans Paris devant le Parlement, le premier mort est un maghrébin d'Action française. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la vie politique de la cité.
Voilà.
C'était des militants de la ville, ils étaient acteurs de cette histoire. Mais vous avez aussi des grands noms qui sont partis avec les brigades internationales. Et vous avez, pendant les années 24, le Parti communiste présente des maghrébins aux élections municipales dans Paris. Alors ce qu'il faut voir, justement, c'est qu'il y avait, si vous préférez, une vie quelque part plus normale qu'au Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, si Paris est une capitale coloniale, Paris est aussi la ville des libertés. C'est-à-dire qu'à Paris, on pouvait s'exprimer politiquement. Même s'il y avait cette pression des organismes de contrôle et autres, il y avait quand même une plus grande liberté qu'à Alger, Casa ou Tunis.